quelles heures ? Pendant des heures ? Pendant des heures, car Michael attend. Il n'attend évidemment pas, bêtement, l'inspiration. Il n'attend pas davantage une belle disposition des nuages, car toutes les dispositions des nuages, à qui sait les contempler, sont également intéressantes. Il attend. Il attend. Il attend simplement que la peinture se lève en lui, comme une turbulence, qu'elle se forme imperceptiblement, comme le font les nuages. Il attend. Il attend qu'elle s'agrège à travers tout son corps, pour qu'enfin la beauté du ciel imprègne le papier. Car Michael attend, comme si lui-même était un nuage. Alors seulement, il peint.
La jeunesse, quand, éveillé, solitaire en étroite compagnie, je fus livré, rendu à l'immensité de solitude que j'appelais à bout de patience. J'entamai la longue marche sans plus d'enthousiasme que cela, imaginant tenir ma liberté comme une sorte de document, comme un papier en poche, plus catégorique, en définitive, et plus assuré que moi-même. Solitude, liberté. Je ne savais pas encore que tous les mots sont doubles et duplices en jumeaux ennemis. J'ignorais leur duplicité, mais je leur avais quand même une méfiance intermittente. Ils n'étaient pas fiables, je l'avais pu voir. Ils ne tenaient leur sens qu'à grand-peine, ceux-là dont ils avaient la garde. Te souviens-tu, aux premières lectures, tu observais un mot, un seul mot tenu dans la page imprimée, avec une telle intensité d'interrogation et de doute qu'il éclatait tout soudain dans l'absurde, qu'il se vidait d'un trait, ne laissant plus, craquants et noirs, que les linéaments frêles d'une mue d'insectes. Ou tout un jeu maigri de pièces métalliques, incongrues, les éléments d'une machine oubliée. Je me méfiais aussi des mots pour leur docilité, leur complaisance devant la force. j'apprendrai qu'ils ont chacun leur double rayonnant et libre. Et surtout, j'aborrai les monstres que ce langage-là, le langage dont j'héritais, avait su faire avec eux. Des monstres qu'ils nourrissaient et flattaient comme un maître les chiens dont ils s'arment. Clé des champs, carte de fidélité, temps passé, temps perdu. Clé des champs, carte de fidélité, temps passé, temps perdu. Clé des champs, carte de fidélité, temps passé, temps perdu. Des monstres mots sans nombre dont je me pris de haine à mesure que je vis quelle chose monstrueuse ils avaient suscité lorsque je découvris que cela qui était invoqué en un sabbat sans feu ni chevelure s'était donné le mal d'entrer dans la matière. Les champs s'étaient couverts de verrous qui rouillaient, de serrures et de chaînes. La fidélité avait été mise en carte et chacun s'était vu donner des rognures de temps, son temps à soi, pour de sordides échanges, pour quelques larcins, pour des sacrifices et des luxes également dérisoires. Pour ce que j'en aimais des mots, je sus qu'il me faudrait braconner dans les marges. La chasse était gardée. Je l'appris d'un professeur qui, sans relâche, dénonçait aux enfants deux mots. Ces bêtes noires. On. D'abord, on. C'est-à-dire un homme, n'importe lequel, sans grade ni distinction. Et comme. Surtout celui-là, le pis-aller, la faiblesse des mauvais poètes. C'est ce qu'il disait. Quand je savais, moi, quelle cheville il pouvait être pour lier les mondes, pour défaire le monde et le remonter à l'envers avec de belles coutures bien colorées. Un mot magique dans toutes les langues.
Comme avec les belles choses, quand elles vous étreignent. La douleur qu'on a dans l'émotion et qu'on trouve un peu idiote, d'avoir mal là où justement, c'est la douceur qui prend. Et puis la joie à dire des « souviens-toi ». Ces moments qu'on aime, qu'on appelle. Pourquoi, dans nos têtes, si de vouloir les partager, c'est seulement conjurer le sort de les savoir derrière soi. Ça, impossible, j'ai dit. Non. On ne peut pas accepter que des trucs heureux finissent comme ça. Remplis du vide où ils nous ont laissés. Les rigolades, franches. Et les têtes vides aussi qu'on avait dans ces moments en famille où l'on savourait même ça. Les petits défauts de chacun. J'ai dit tout ça à Jean, pas seulement parce que c'est mon frère, pas seulement parce qu'on était là, tous les deux, assis sur le petit muret, et que c'est dur de ne rien dire dans ces moments-là. Lui, il a juste parlé de l'air idiot qu'il se trouvait. Rester dans la vie une heure après avoir enterré un fils. Il a dit que ça bloquait en lui d'être là, de parler, de se taire. Que parler ou se taire, c'était la même horreur, parce que toute cette vie déjà, de trop, qui palpite, qui continue, qui vibre dans l'air, dans les corps, cette vie tranquille qui suit sa vie, et vit bordel, pendant qu'en lutte maintenant, plus rien ne respire que l'agitation de cette vie mauvaise. Celle qui va s'acharner sur lui jusqu'à le dissoudre entièrement. Vie de merde, il a marmonné. Vie de merde parce que c'est injuste de perdre son fils. Surtout comme ça. Vu les circonstances, comme on dit. Vie de merde. Cette saloperie qui s'acharne à vivre, à proliférer, à continuer sur les corps quand ils ne peuvent plus rien, à grappiller dessus, dedans, tout ce qui d'eux encore peut faire fonction, nourriture. Et il faudrait bouffer encore, il a dit. Faire partie de cette vie qui aujourd'hui va prendre Luc et s'encrasser de lui. À se taire aussi, on savait bien ce qui se passait. Dans nos têtes, à tous les deux. À Jean surtout que je regardais, lui dont le regard se perdait sur ses chaussures, avec ses pieds qui grattaient le sol, la terre dure et sèche, poudreuse au-dessus de la poussière qu'il y avait sur les souliers, et les tapotements secs qui ne couvraient rien du silence dans lequel on était. Car maintenant, je sais qu'on était dans le silence. Que le silence, ce n'est pas quand il n'y a pas de bruit ou quand tout seul on se repose. Ça tombe dessus. Le silence. À cause du soir qui allait venir, l'atmosphère obscure qui descendait en nous, on n'a pas osé. Lui n'a pas osé dire sa première nuit de mort dans son cimetière. Ni moi de répondre. Ou d'anticiper quelque chose à bredouiller. Un je ne sais quoi qu'il aurait peut-être fallu dire, comme les gens disent, parler de dernière demeure. Pour se faire croire qu'il y a des restes de vie. Une demeure. Comme une petite maison ou un logement avec un petit confort quand même. L'explication aux enfants. On dort, tu sais. On dort, c'est pareil. Et puis voilà, on dort trop bien. Les enfants n'y croient pas. Mais nous, on voudrait qu'ils y croient. Au moins eux. Qu'au moins ils aient les regards de croire à ça. Que mourir, c'est pareil que dormir. Parce qu'alors, on finirait peut-être par s'en convaincre un peu, nous aussi. Et être juste un peu tranquille. On a balbutié 3-4 mots sur rien. Qu'on a échangé pour lutter ensemble. Et s'en sortir de l'idiotie d'être là, assis sur le petit muret. Dans le jardin, qu'on trouvait bête aussi avec sa plate évidence de jardin, avec au fond la cabane à outils, les rangées de tuyas contre le grillage qui le borde ce jardin et délimite l'espace clos. Moi, j'ai dit débrouille. Des bêtises sur l'usine qu'on a dites 20 fois et qui, là, nous ont fait rire. Arracher. Révolter les sourires qui sont venus à lui. Arracher. Révolter les petits mots qu'il fallait que je trouve pour le ramener au monde. Jean, pour qu'une minute un peu, je le vois, mon frère, revenir vers la colère qui pouvait seule lui faire encaisser un peu de ce qu'il venait de vivre. Et tout à coup, ça. L'éclat furieux de son rire.
J'ai dû marcher aussi parmi la longue cohorte coude à coude avec les déjetés, sans cesse bousculés par les enthousiastes de la faim, les frénétiques, les attendris d'eux-mêmes, ceux qui biberonnaient leur chair devenir, qui s'en saoulaient la larme à l'œil. La plaine ouverte devant eux, tous les chemins offerts, possibles infiniment. Parlant seul, les yeux au ras du sol, ou vous ouvrant l'oreille à toute force, des deux mains, il piaillait, il scandait, il dansait un seul et même mot. Il faut. Il le mâchait, le déglutissait, le reprenait en bouche, le soufflait avec une mousse aux lèvres de salive, il le vaporisait. Il faudrait. Et alors, on pourrait, ce sera. Ils en étaient rongés d'il faut, ce faux frère de fer qui lui court loin devant avec son enthousiasme trépassé, paralysant, euphorique. Il faut ce petit père de faillir et jumeau de son fils dans le présent. Mais tu les peux distinguer au passé, lorsque tu as bien vu que tu avais failli ou qu'il aurait fallu. La liberté alors, c'était être sur la plaine nue, en plein vent, avec vaguement, ça et là des tas de pierres, avec au loin des arbres incertains. La liberté alors, c'était avoir peut-être le droit de se construire une cabane n'importe où sur la plaine, avec autant de cailloux et de bouts de bois qu'on en pouvait porter pour ne plus dépérir. Nuit après nuit. Nuit après nuit.
Je lui demandais le secret de son vol, ce qui l'avait poussé dehors. Elle parla longuement. Ce qu'elle me dit, alors, je puis m'en souvenir ainsi. À marcher dans la ville, je m'empare quelquefois d'un sentiment terrible et exaltant. Celui d'un infini de l'existence des choses et des gens, d'une fulgurance de la vie dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Et se lève alors, en basse continue, la crainte de perdre cet état sauvage, d'effaroucher la sensation. Avec la lenteur de l'approche, la retenue d'une qui apprivoise ou d'une qui chasse, cela se ressemble souvent. Je fais taire mes voix comme on retient ses chiens en arrière de la bête. Chaque fenêtre éclairée ou close ou voilée ou morte, chaque signe, tout détail, quelques lettres peintes, une marche luisante, la chaude obscurité d'un soupirail. Je vois que tes yeux brillent. Le visage de ce marteau de porte, l'envol d'une main courante, mais les fenêtres surtout. Comme des échappées à rebours, avec l'angle d'une armoire à 6 mètres de haut, les 3 lignes sombres de poutres mal équarries, l'amitié d'une lampe de bureau, les chines ignorées d'un totem africain, avec, parfois, la lumière aquatique et changeante d'un téléviseur. Et puis, des ombres mouvantes, de lentes silhouettes. Tout cela qui vient tour à tour comme un souffle sur la braise blanche, souffle léger, à peine, ou souffle acharné de la forge du soufflet aux vastes joues de cuir avec les yeux de laiton dans le bois. Tremblante, comme à tenir de l'eau dans mes mains réunies, je veille la masse claire qui s'empare de moi. Je marche un peu plus vite, je respire sans à-coups, de plus en plus profondément pour garder ce noyau, fragile sommet de courbe. La vie partout, derrière chaque mur, mobile, qui tourne, s'ouvre, se ferme, ne tient à rien, emplit chaque chose, sans mystère, infiniment mystérieuse. La vie qui fut, qui a passé, les cris des nouveau-nés, les soupirs tendres, les éclats, et puis ma vie dans chacune de ces chambres, là, sur le bord du fleuve, ou dans cet entresol, ou dans 1000 mansardes, mon front, le soir à tous les carreaux, et cette nuit dans la chaleur de tous les corps, dans la solitude de tous les solitaires, ma main sur la joue des enfants qui s'endorment. Ma main dans celle des vieillards qui meurent. Ma main sur la queue des garçons qui se touchent. Et mon rire dans l'oreille des sourds. Et refuser leur naissance aux images. Respirer, respirer, respirer plus vite pour contenir toutes ces images qui se pressent à ma porte. Je me tiens à la sensation, aussi vive que l'eau claire chassant le dernier souffle. Et mes yeux glissent contre le vent. Porter en ascension, sans jamais se poser, sans s'arrêter à rien non plus que mon esprit grand ouvert, étonné comme le lit du fleuve, l'éclusier ayant fui devant la crue immense. Et ce sont enfin des milliers de fils en étoiles tenus, retenus, maintenu sans en tirer un seul pour suivre ses méandres. Un écheveau toujours plus dense, mais clair, mais léger, que je saisis de tout mon corps. Je lui ai dit combien j'aimais, moi aussi, ce noyau clair à tous les vents qui gagne en légèreté, l'expansion si peu conquérante du pollen tout occupé de son voyage. Et je lui parlais de l'autre pôle, du nadir, de ce noyau de nuit dont je subis l'attraction non moins passionnément. Quand c'est en sens inverse que se meuvent mes sens et mon esprit,
vers la masse infrangible et sourde, l'au-delà de la compression. Accroître en soi la densité, en un repli qui ne saurait avoir de fin. La chute sans le mouvement ou le poids de l'enclume sur de la terre battue et l'impossible horizon de son enfouissement. Le désir de tomber, de descendre, de s'enfoncer, qui s'empare du corps immobile, étendu sur le sol, yeux clos, joues contre terre, pesant, exerçant tout son pauvre poids contre l'impénétrable. Je suis qu'elle ressentait ça aussi, dans son corps, ce besoin parfois de peser une tonne. Pas plus que moi, elle n'y voyait la mort, le poids terrible du gisant cadavre qui s'effondre sans bruit, non. C'était un autre élan, celui de la fève qui se recueille dans les ténèbres de l'humus, dans la solitude mystérieuse et serrée de la germination. Pollen ou fève, les deux voix sont fécondes, douloureuses et fourrières d'un jouir sans pareil. Elle m'a dit que nous irions par l'une et l'autre quand nous ferions l'amour et que la route serait longue. Je pouvais en être sûr. S'élever, descendre pour commencer. S'élever, descendre par lassitude et défiance de ces destinations, trois ou quatre, toujours les mêmes qui nous attendent, à droite, à gauche, devant, derrière. Trace ta voie, hurlent les affiches, les néons, les factures. À quoi bon inventer d'autres chemins, de petits détours en Colin Maillard quand il faut seulement se rendre à destination. S'élever, descendre. À force de fièvre, c'était un bon début. Le temps de nous inventer d'autres cartes. Quand on a jugé l'ordre des choses, même confusément, quand on y a reconnu la maladie, on se découvre tout soudain privé de force. On se voit retirer les forces que cet ordre ne prêtait qu'en échange d'un consentement. Alors, on est au point zéro de la convalescence. On ne voit nulle part où aller. Sors. Sors et ce dans quoi tu évoluais tant bien que mal, comme tu pouvais, t'écrase maintenant. Tu te retrouves dessous. Tu es un atlas misérable qui devra, débris après débris, jeter à bas son fardeau. Nos premiers pas.
Quand tu évoques ta solitude d'écrivain, ces 20 ans volés. Je t'aime comme je t'aime quand je te regarde marcher, mais c'est plus compliqué encore. Je veux être avec toi, et pourtant, j'aime te savoir seul, occupé à écrire, seulement à écrire. Le corps en sommeil, livré au récit. Ce corps en jachère de la vie, mais plein de personnages et d'histoires. Ça me fait un effet incroyable. Je suis fascinée. Tu remplissais le silence de mots, de bruits écrits. Tu composais d'extraordinaires paysages avec les corps des femmes. Tu parcourais des océans. Tu nageais dans l'air. Tu écrivais la vie qui te manquait. La réalité, tu la rêvais par écrit et elle devenait. J'aime cette image que je me fais de toi. Cette vision d'un écrivain total, tellement plus enchaîné à l'écriture que moi. Je t'admire. J'admire ton travail, le résultat de ce travail, mais aussi ce travail lui-même, cette abnégation, cette solitude, cette mise en veille de ta vie. Je t'embrasse. Je suis obligée de te mettre en danger pour te faire prendre des risques. Je ne sais pas encore comment, mais ce risque est dans notre histoire. Si cette séduction dont tu parles le contient, alors on est dans le bon livre. J'aime ce travail à deux, cette mise en danger, ces moments dans tes bras, cette écriture sur tes genoux. Quand on me demande ce que j'écris en ce moment, j'ai envie de répondre, peu importe ce que j'écris, ce qui compte c'est comment je l'écris. J'ai envie de répondre, en ce moment, j'écris un roman, assise sur les genoux de l'homme que j'aime. Je t'embrasse. Non, j'ai ma vie chez moi dans un paysage où tu ne tiendrais pas debout 2 minutes avec mes enfants et mon mari. Ce n'est pas incompatible avec notre histoire, cela ne la concerne pas, tout simplement. Notre liaison n'est ni géographique ni conjugale. Tu sais bien comment nous sommes reliés. Ce n'est pas par nos choix de vie, ni même nos caractères, mais par nos écritures, nos lectures, et peut-être nos corps. Par nos différences, justement. Oui, nous sommes différents. Et nos différences nous relient. Ce sont les vides et les pleins de l'écriture, les silences et les bruits de la lecture, les mots, la ponctuation. Nous ne sommes peut-être reliés que par ce livre. De quels espoirs parles-tu ? Ce matin, je me disais, s'il ne veut pas de moi, est-ce que je continuerai à écrire ? Est-ce que je pourrai encore écrire ? Parce que maintenant, j'écris autrement, difficile de revenir en arrière. J'écris différemment et je ne suis pas encore habituée à ma nouvelle écriture. Un peu comme si des ailes ou je ne sais pas, d'autres bras, d'autres jambes poussées sur mon corps, et qu'il me fallait adapter ma démarche. Oui, c'est ça. Tu changes ma démarche d'écriture. Et pour le moment, j'ai encore besoin de toi pour me servir de cette nouvelle façon d'écrire. Ce ne sont pas des espoirs que tu as placés en moi. Tu m'as greffé d'autres mains pour écrire. J'apprends à m'en servir sans perdre l'usage des tiennes. Tu m'as greffé des mains. Les tiennes, j'écris à deux maintenant. J'écris à quatre mains. Tu me manques plus que d'habitude. Je t'embrasse. Pourquoi j'écris ? Pourquoi j'écris ? Pourquoi ? Parce qu'écrire m'est indispensable pour vivre, le bonheur comme le malheur. Et en ce moment précis, depuis 3 mois, j'écris parce que tu me manques. J'écris pour te séduire, pour te garder, pour que tu sois et restes amoureux de moi. Je ne veux pas que tu me quittes, alors j'écris. Je sais que mes mots ont un pouvoir sur toi. Je l'utilise. Peut-être même que j'en abuse. Je t'embrasse.
Seul me porte vers les livres le désir d'y trouver ce que je ne soupçonnais pas. Et c'est pourquoi je déteste les faiseurs de bouquins, les romances ficelées, cousues d'astuces, farcies de diables à ressort, de pièges à souris. Je leur préfère le bruit du tram ou les écrits intimes. Les chroniques fragmentaires, la philosophie, les recueils d'anecdotes, ou le décompte que fit de ses chemises dans la marge d'un sonnet le pauvre Baudelaire. Il me semble qu'on doit écrire, dire, crier, murmurer, et 1000 fois s'il le faut. Dit-il, dit-elle, dit-il, dit-elle, dit-il, dit-elle, lorsque je lis, expliqua-t-elle ou se justifia-t-il ? J'en ai le cœur qui se soulève. Dum 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 dum. Bulles infimes de solitude, les vagabonds, les amoureux, les lecteurs font dans la soupe collective un ferment qui nous sauve. Et si la plupart de ces bulles échoue à remonter à la surface. Qu'importe, ça travaille, ça lève.
Un jour, j'ai décidé de me lancer. J'ai bien réfléchi à la place qu'il me fallait, à l'organisation, à la pérennité de mon projet. Puis, j'ai commencé une collection. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit bien réfléchir au départ à ce qu'on va collectionner. Même si bien sûr il y a toujours le plaisir d'avoir plein de trucs semblables qui fonctionnent avec un peu tout. Un classeur de timbres, un tiroir plein de Tamagotchi, des potiches, des meubles d'époque, des t-shirts, des maisons de lotissement, des armes. L'accumulation fera plaisir de toute façon. En fait, comme disait une fille, dès que tu regardes ta collection, même si t'as un coup de blues, tu te sens bien. Tu es contente de voir ce que t'as déjà accompli. Quand des copines passent chez toi, tu peux leur montrer. Donc, après avoir bien réfléchi, même si je sais que ça a déjà été fait, j'ai choisi de collectionner les baisers. Chers Maoris de Nouvelle-Zélande, nous devons vous dire que nous, les Européens, nous avons depuis longtemps un rapport particulier, très fort, avec le baiser sur la bouche. Nous sommes bien conscients que pour d'autres peuples, cela pose un problème. Nous savons qu'il y a des peuples pour qui nous ne devrions pas nous embrasser longtemps sur la bouche. En tout cas, pas comme ça, en pleine rue. Nous savons que cela peut nous coûter cher, comme aux deux touristes britanniques, emprisonnés durant un mois pour s'être embrassés dans un restaurant huppé de Dubaï. Il s'agit d'une pratique intime, nous reprochent certains. Plus encore que l'acte de copuler. C'est pas possible. Le baiser ne doit pas sortir de vos chambres à coucher. Ce n'est déjà pas génial en soi, mais alors là, en public, c'est obscène. Or nous, les Européens, ne sommes pas d'accord. Et d'une, contre tous les peuples qui s'embrassent peu, nous mettons le baiser sur la bouche au-dessus de tout. Nous ne concevons pas le monde sans le baiser. Là où il y a monde, il y aura baiser sur la bouche. Munis de cette douce certitude, nous allons notre chemin. Et de deux, du coup, nous oublions tout le temps que le baiser devrait se cacher derrière d'épais doubles rideaux. Nous sommes comme ça, spontanés. Nous adorons le baiser amoureux, le French kiss. Nous trouvons qu'il recèle une forme de gentillesse, et même la plus grande gentillesse inventée sur Terre. Même si nous sommes conscients qu'à la fin du 19e siècle, nos baisers dégoûtèrent et effrayèrent les Chinois, qui les associèrent au cannibalisme. Même si nous pouvons comprendre que pour certaines populations, le baiser risque de transmettre les saletés de salive à salive et de nuire à l'âme qui réside dans la bouche. Chers Maori, rien à faire. Nous sommes des convaincus. Il faut bien voir que le baiser agit sur nous. C'est fou. Un baiser suffit à nous déposer en dehors du monde normal. Dans un paysage puissant, archaïque, brillant, où le torrent de l'origine se remet à couler. Un torrent énorme et mousseux. On est comme ça, on s'enfonce vers le fond à toute allure, les bras le long du corps, les cheveux qui flottent en haut. Nos pieds arrivent dans une mousse vert vif super épaisse. On passe à travers en se disant « Waouh, c'est joli ce vert, lumineux malgré la profondeur. » Les souvenirs flous de notre petite bouche archaïque s'éveillent et entrent en résonance avec le paysage. Voilà, cher Maori, c'est notre histoire. En tant qu'amoureux du baiser, nous les Européens, nous sommes malheureux si nous rencontrons un soir en boîte un cum qui nous plaît, mais que ce cum ne s'est pas embrassé. Nous ne voulons pas le vexer en lui faisant une remarque. Nous voulons agir avec tact et surtout pas comme la copine de Lina qui l'a dit à son copain et résultat maintenant il est complexé. Cher Maori, tout ça peut sembler bizarre, pas complètement naturel. Il faut avouer que pendant des dizaines d'années, nous nous sommes inspirés des baisers de cinéma. On regardait des films, on calquait dessus les baisers de nos propres vies. Dans le rôle des stars, c'était nous à chaque fois. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur nous et nos baisers en pleine rue, dans les gares, sur les bancs publics et devant les monuments du monde entier. C'est pourquoi nous aimerions à présent faire une déclaration et vous demander, chers Maoris, vous qui êtes là depuis tout à l'heure assis sur une barrière et qui nous regardez avec un large sourire, de bien vouloir cesser d'éclater de rire dès que nous commençons à nous embrasser. Parce que déjà, c'est vexant et que, en plus, ça nous déconcentre.
Vient la nuit sur le territoire. Coca se précise. Le noir lui est propice. Il l'affole, la chauffe, la livre crue et brutale. Les contours acérés quand l'intérieur se trouble de milliers de lueurs rivales. Il la divulgue orange, effervescente. Pastille de vitamine C jetée dans un verre d'eau trouble. Bocal de fuel posé dans une cuvette. Distributeur d'oxygène, de speed et de lumière. Le jour qui tombe multiplie sa lumière et abonde son vie. La ville redouble de vitesse. Les langues accourues s'emballent dans de grandes bouches excitées. Et ce nom qui partout se propage. Coca, 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 the brand new city. Une zone de prolifération où pullulent entre autres businessmen fébriles, dealers de toutes sortes, adolescents fourbes, dandy opioman, usuriers, usurières, phoenix, taclope et assassins en perruque. Les grands journaux de la côte, les premiers alléchés par sa réputation tout autant que fascinés par sa croissance, en publient chaque semaine l'image chaude et nerveuse, la compare à une vierge nubrile, fruste et maligne, encore malpropre. Regardez-la, regardez-la bien qui racole sec, parée comme une petite pute, main posée sur une cambrure recousue de strass. Écoutez-la qui vous appelle, entrez les gars, venez voir, venez goûter. Certains forcent le trait, parce qu'il faut toujours que les colonnes croustillent. Au fond. Et le sexe était bien ici l'un des principes activateurs du grand mélange global. Pratiqué pour abolir, du moins en avait-on l'illusion, les différences physiques, sociales, générationnelles. Ce n'est un secret pour personne. Et traverser Coca à n'importe quelle heure de la journée suffit à juger de la frénésie d'une ville dopée à la sueur et au fric, tendue à mort,
comme gaufrée au botox. Suffit à juger la force de l'effet joule géant qui travaille le lieu. Coca et promesses de grande vie, on y vient de loin, le corps impatient avec au fond des poches de quoi voir venir pour seulement quelques jours. Alors turnover des hommes et des désirs, joues brûlantes et pupilles bouillantes, rues rapides comme des moteurs centrifuges et gratte-ciel ouvert sur le ciel dispendieux de la bonne fortune. Puissante et effective du territoire. On y croit ce qui fait le gros bouillon d'une ville. On y entend les spasmes du béton et la scansion violente des cœurs immergés dans une turbulence commune. En le secret de ce flot incomparable, qui fait ici pulser le corps, plus fort le sang dans les artères et perler la sueur au bas des reins. Ce secret-là n'en est un pour personne. Il circule par tous les réseaux possibles, comme une actualité. Ne venir sans coca qu'à pour y faire quelque chose. Et va!
Non pas y faire souche. Encore moins s'y distraire ou prendre du repos. Mais l'approcher en fauve ambitieux, respirer fort. Donner un grand coup de latte dans la porte et débouler sans attendre, sans se faire annoncer. Mettre alors son plan à exécution.
Stade de la nuit, je songe à ces noms propres qui sont des toponymes, à ces anthroponymes qui désignent des lieux, des villes qui s'appellent Athènes ou Lisbonne sous différentes latitudes.
À ces personnages qui se nomment Quichotte ou Gargantua, Guermantes ou Maulne.
Je pense au Havre et à Bouville, à la route des Flandres et à Ellis Island. Je pense aux Cards et à Lascaux, à la mer des Sargasses.
Je prononce Lac Baïkal et Wyoming. Je prononce Sahara et Cap Horn. Et encore Détroit de Gibraltar et Delta du Mekong.
Je murmure Grande Jorasse, Guadalquivir et Loire. Liège bastonne Liège. Je murmure Zanzibar, Hemdoum, Kamchatka.
Et encore Mont Égual, plateau des mille vaches, massif des morts. Je chuchote forêt noire, et peluche et les fougères.
Les noms se bousculent, ils vivent et prolifèrent.
Et parmi eux, sur une route des Landes, dans l'été qui bourdonne, ce panneau rectangulaire liseré de rouge et ces lettres noires inscrivant ma Iris sur un fond blanc.
Ou cet autre, photographié en novembre en Finistère, signalant Kerangal sous un ciel noir.
Je pense à ces noms inscrits dans les paysages, et je pense aux paysages véhiculés dans les noms. Soudain, je me suis demandé comment les hommes avaient déposé les noms sur la terre.
À ce stade de la nuit, la map monde chauffe doucement dans la chambre. Une ampoule de faible voltage l'éclaire de l'intérieur.
Analogue au noyau interne qui concentre l'énergie du feu sous les différents manteaux de la croûte terrestre.
Je me suis approché. C'est une sphère de verre recouverte d'une fine couche de papier saturée de signes, de formes et de couleurs.
Un carroyage de lignes tracées à la pointe sèche y tisse des repères.
Des centaines de noms l'animent.
S'y chevauche, majuscule old style ou italique cursive, un codage typographique étalonnant leur importance et désignant leur emboîtement possible.
Continent,
océan,
pays,
mer,
fleuve,
capitale,
chaîne de montagnes et sommets célèbres,
désert,
ville.
Des noms parfois si longs, si étirés, que la dernière lettre migre à des centaines de kilomètres de la première.
De Paris qui l'a ciblé illico, mon regard a dévalé vers le sud par ricochet, touchant successivement Méditerranée, Naples, Etna, Sicile. Après quoi il a freiné sur un espace bleu, translucide, a balisé la zone.
Sa forme irrégulière, ses contours de flaques
et je me suis penché un peu plus. Me suis penché afin de voir si les éponges dorées que l'on pêche dans la zone tapissait le fond de la mer, si les corps des plongeurs se déformaient sous la surface de l'eau.
J'ai localisé un point microscopique, une pastille indifférente au continent dont j'ai déchiffré les 9 lettres. Pâle, ténu,
Lampedusa.
C'est l'un des points les plus méridionaux de l'Europe, à même latitude que Chypre et Malte, ou proche. J'ai voulu voir si l'île était plus proche de la Tunisie ou de la Sicile, à quoi l'on rattache l'archipel des Pelages. Lampedusa, Linosa, Lampione, trio des sœurs dispersées. Et manière de calculer les distances, j'ai placé le pouce et l'index en compas sur le globe. Mon pouce posé à la verticale et prenant appui sur Lampedusa. Et les bouts de mes doigts occupaient grossièrement la surface et j'ai fini par me brûler les pulpes. Alors j'ai fait un pas en arrière pour situer l'île, établir sa position dans l'espace, sans la lâcher des yeux. Elle était si petite, un seul clignement de paupières et hop, elle aurait disparu, effacée, engloutie. Et j'ai vérifié ce qui est visible à l'œil nu.
Lampedusa est seule au monde.
À ce stade de la nuit, le jour perce à la fenêtre et décolore le ciel dans la rue. La cuisine s'éclaire. J'ai su que Lampedusa était le nom d'une île il y a une vingtaine d'années, lors des premières arrivées de migrants dans son port et des premiers naufrages dans la zone. À l'époque, ce nom était pour moi celui de Burt Lancaster, celui d'un prince, celui d'un monde qui sombre, celui d'un écrivain, celui du mois d'août, celui d'un enfant. Il feuilletait en désordre différentes couches de sens, activer des imaginaires disparates, instaurer des scènes discontinues, des écritures qui toutes tremblaient dans l'épaisseur de son spectre. Étrangement, le toponyme insulaire n'avait encore jamais recouvert le nom de fiction qui avait fini par sédimenter en moi, ce nom de légende, ce nom de cinéma.
Mais ce matin du 3 octobre 2013, il s'est retourné comme un gant. Lampedusa, concentrant en lui seul la honte et la révolte, le chagrin, désignant désormais un état du monde.
Un tout autre récit.
J'ai reçu la cohorte des maladies quand elle se présenta chez moi. Je l'ai reçue sans effusion, mais sans faire non plus de difficultés. Les maladies, ou plutôt le retour d'une seule et même, des lames de rasoir dans la gorge, une purée verte au fond des bronches, de grands frissons de bœuf. Je retrouvais ma chambre tout autre. J'ai bu le thé chaud du poitrinaire en grimaçant. Et puis j'ai vu comme un chemin. Changer le paysage c'était une variation lente de l'air et de la lumière. Un soudain plus humide, un prisme de brume. Le thé vert, macéré, réchauffé, rallongé. Le thé vert, aux petites billes, comme du plomb de pêche, qui s'ouvre, se délie, en longues langues alvines. Civelle noire, algue luisante. Une ivresse nouvelle, toute de lucidité, et qui faisait la nuit ouverte, calme, étendue docile devant soi. Et des listes de mots rares, difficiles, drôlatiques, prétentieux, sombres, que je clouais. Avec ma machine à la façon de papillon. Pariétaire, Aristarque, à mourir, Guilledoux, Guy Pur, Clabeau, Gabeur, Egad, Lévigé, Chancir. En hiéroglyphe sur le tombeau du seul. Boire du thé, parce que la terre, les feuilles mêlées, les mousses, les aiguilles, les racines blanchâtres et les petites pierres au parfum de poudre, même infusées, ne sont pas tout à fait buvables. Boire du vin, parce que l'ivresse du sang pur ne suscite qu'hébétude et prostration. Boire du vin, parce qu'on imagine, fasciné, saisi, qu'il a parfois ce parfum aigre, fort, solaire et maritime, du sang qui coule entre les jambes des femmes. Solitude démente, émerveillée, abjecte, tout à la fois euphorisante et narcotique. Solitude, 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 que je traînais, que je poussais, une carriole énorme faisant un raffut pour moi seul, au fond des rues, en des marches hallucinées. Je me posais aux encoignures, à même les trottoirs, et m'absorbais dans la contemplation argentique d'un mur simple, sous la lumière jaune. Je mâchais deux mots. Mur, lépreux, ramassé dans un livre. Je mâchais ces deux mots, en poussant mes yeux dans les croûtes, sous les écailles près de tomber. Les moellons reparus, qui une fois me donnèrent, très exacte, la silhouette du but roi. Je fredonnais.
Cette amertume devant la gorge d'un tire-botte. À la nuit des crottoirs, t'aurais cru ça dit. Cette amertume devant la gorge là qui rebotte. À la nuit des crottoirs, t'aurais cru ça dit. Cette amertume devant la gorge là qui rebotte. À la nuit des crottoirs, t'aurais cru ça dit. Cette amertume devant la gorge là qui rebotte. Du décrotoir, t'aurais cru ça dit. Du décrotoir, t'aurais cru ça dit. Cette amertume devant le monde.
Les glaciers qui les surplombent forment comme des murailles blanches aux reflets métalliques, bleus, gris. Et s'ils entendent des écoulements, des ruissellements, Sibyl et Samuel pensent seulement à la rivière qu'ils ont croisée et qu'ils ont réussi à traverser sans trop de difficultés. À guet, sur des cailloux. Une rivière dont le débit était pourtant rapide, tumultueux, mais peut-être pas assez féroce pour qu'ils y prennent garde et se disent qu'il est le signe d'un autre danger. Car en avançant entre les murailles de glace, en écoutant l'eau qui ruisselle de chaque côté, ils comprennent que la rivière est gonflée par la fonte des glaces, qu'elle se nourrit de l'effondrement de la glace. De son émiettement. Au départ, l'eau s'infiltre dans la terre trop sèche qui, d'abord, n'absorbe rien et forme un fond à l'accumulation de l'eau. Et puis, lentement, doucement, l'eau s'infiltre, s'imbibe. Le sol devient mou. Herbe, cailloux, terre, un limon spongieux qui enfle et se transforme lentement, se nourrissant, se gonflant, se colorant jusqu'à ce qu'un marécage s'étende, tentaculaire et profond, engloutissant dans son fond de vase tout ce qui veut l'emprunter. Ça se fait lentement, en quelques jours. Peut-être en quelques semaines. Mais pour eux maintenant, il est déjà trop tard. Ils ont trop avancé lorsqu'ils comprennent que cette esplanade qu'ils croyaient froide mais paisible s'ouvre sur un sol imbibé d'eau. Et c'est au moment où l'eau arrive aux genoux des chevaux que Sibyl s'arrête et se retourne pour regarder derrière elle. L'eau arrive aux genoux des chevaux, mais à la regarder, elle ne devrait pas. Elle devrait arriver un peu au-delà du sabot. Ça veut dire qu'on... Est-ce qu'on peut envisager un repli? Repartir? Rebrousser chemin? Elle essaye de faire demi-tour à son cheval, mais l'effort de ce demi-tour lui arrache un hennissement si puissant et douloureux qu'il se braque et revient dans sa première position. Non, il ne peut pas se retourner. Soulever un sabot, une jambe, l'autre, tout son corps, son poids et celui de Sibylle et les sacoches pleines, c'est impossible. Sibylle caresse l'encolure de son cheval. Il faut le calmer. Oui, il faut le calmer. Sibylle sent qu'il a peur, que la panique le guette. Mais en levant les yeux, elle voit d'abord le visage de Samuel qui s'est arrêté à son tour et l'interroge d'un mouvement de tête comme s'il disait « Qu'est-ce qui se passe ? On est où ? Qu'est-ce qui nous arrive ?» Comme s'il avait besoin de sa confirmation ou qu'elle lui dise « Mais tu ne vois pas ce qui se passe ? Tu ne vois donc jamais rien, Samuel ?» Sibylle comprend que faire du surplace, c'est s'embourber. La boue est le danger. Non, il faut continuer. Il faut aller plus vite, le plus vite possible. Et Samuel qui réagit.
Maman ! Maman ! Putain, on s'enfonce ! On s'enfonce !
Et tous les deux se montrent, se mettent à crier et à claquer leurs talons dans les flancs des chevaux. Ils éperonnent de toute leur force. Ils crient, s'agitent. Les chevaux alors se lancent pour s'arracher à cette mélasse qui les avale. Pour se hisser, ils bondissent et déploient toute leur puissance. Les muscles saillants, les muscles bandés, le corps tendu. Mais ils avancent par à-coups. Presque rien. Des sauts de puce. Des bonds brisés. À peine lancés. Et pourtant ils continuent. Et ensemble on s'agite. On cale. Les chevaux aux yeux exorbités par la peur. Ils se lancent et gagnent, grignotent 20, 30, 50 centimètres. Et puis dans un effort immense retombent dans l'immobilité qui voudrait les prendre. Les flaques de boue noirâtres sous la verdure. Plus d'herbe du tout. Plus de pierre du tout, seulement autour d'eux, qui semblent les regarder et les condamner, prêtes à se replier sur ce dôme qui devait les aider à aller plus vite vers Hoche. Des falaises et des crêtes, comme une gouttière en zinc qui les condamne à continuer pour sortir de ce tunnel. Les chevaux hennissent et s'enfoncent jusqu'au bas de l'encolure. Les chaussures et les bas de pantalon saisis par cette matière visqueuse et froide. Et la peur qui monte avec ce bruit horrible, ce glougloutement qui avale tout et régurgite comme un organisme au travail. On crie, les bêtes avancent, on va tenir, il faut tenir. Une heure passe, et puis une deuxième, on avance trop lentement. Est-ce que les chevaux auront la force ? Il fait froid et pourtant, chevaux et humains transpirent. Déglacé il y a encore si peu, et les éclats de boue volent à chacun de leurs sauts. quand il retombe et patauge, effaré, stupéfait. Des sacoches qui prennent l'eau, des plaques gluantes, des paquets de boue collés sur les visages, les mains, les doigts poisseux, les crins des chevaux et le corps en entier, les vêtements constellés de taches, des relents de corps putrides, l'effort, 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 l'effort encore, l'effort toujours, l'effort jusqu'au bout, 4 heures à alterner les moments de combat. Et les relâchements. Qui s'enfonce ou glisse. Et enfin, plus loin, là-bas, à une dizaine de mètres, oui, un talus nous attend, qui avance vers nous, vers le marais. Si on y arrive, et il faut qu'on y arrive, il le faut. On se le dit pour soi-même, parce qu'on n'a plus la force du moindre mot, juste des sons pour cracher aux chevaux l'ordre de continuer. Et pour le reste, les sons ne sont que des cris qu'on expulse. On va y arriver, oui. Un talus assez vaste pour nous accueillir. Et déjà, on regarde avec envie les pierres pointues et osseuses, trop saillantes. On rêve de s'esquinter les pieds sur la terre ferme.
Je suis mort. Tout le monde est mort. Tout est cassé. Puisque ça ne passe pas, puisque nous sommes séparés quoi que nous fassions, puisque l'essentiel nous reste fermé, je vais m'enterrer là. Je me fous au trou, parce qu'il m'est apparu. Ça crève les yeux. Ça m'a vraiment crevé les yeux. Que nous sommes séparés. Séparés les uns des autres. Séparés de soi-même. Et séparés de l'esprit. Tous. Et séparés par quoi ? Le moins fou d'entre nous te dira par la séparation. La tête à Toto.
Échoué.
échoué.
Avec sa force, elle a réussi à m'échouer. Elle m'a tiré sur le rivage. Elle a échoué son homme pour l'empêcher de couler par le fond.
Et que ferais-je sans elle, ici ?
Bien sûr.
La vieille lune, une liberté toute solitaire.
On dit plutôt envoyée par le fond.
La belle image.
N'est-ce pas ?
Le beau regret des premières nuits de veille.
Et couler tout court ou couler à pic. Alors, c'est le naufrage.
Je ne suis plus adolescent.
C'est le naufrage.
Je ne cherche plus rien dans les miroirs.
Les autres sont-ils la mer immense ? Sont à la fois la mer, le navire abandonné, et cette île vers laquelle je nage.
Échoué, échoué. Je n'ai pas encore tout à fait compris que si je dois rester ici sans elle, c'est parce que j'ai à y faire une chose hors la décence. Seul ici, pour la pudeur, la sienne et la mienne, la pudeur des amants. Elle m'a laissé au rivage une solitude, comme à la porte de latrine spirituelle. Et ce n'est pas un signe, un triangle, qui l'empêchait de me suivre, mais la pudeur. Ce que j'irai vomir, ou chier, ce dont je me barbouillerai, comment peut-être je m'y rincerai, elle l'ignore. D'une ignorance sainte.
J'ai compris vers l'âge de 5 ans que j'étais coupable. Et je suis donc devenue maigre. J'ai revêtu la maigreur. Je me suis dépouillée de mes joues rondes, de mon ventre tendu, du potelé qui tournait tout autour de mes membres. J'ai revêtu la maigreur. J'ai revêtu la maigreur. J'ai revêtu la maigreur. Le corps du clown blanc. Les hanches saillantes. Le bas de l'échine où tout le latin et le grec se sont faits lisibles. Les os carrés des coudes, les deux os plats du bras pareil à du fil électrique. Électrique.
Électrique.
Électrique. Électrique. Et la peau qui toujours se pince entre la pierre et l'os. Quand je m'assois. Quand je m'assois, quand je me couche, quand je me couche, quand je m'étends sur le côté.
Coupable. La culpabilité, abstraite, je veux dire de principe, quand elle infuse dans l'âme et dans l'esprit, est un excellent viatique pour aborder le monde. D'ailleurs, il est peut-être celui des vrais innocents. À l'inverse, le sentiment d'être innocent est une arrogance. Oui. Voilà bien le véhicule du tort fait à autrui. Et je mesure mes paroles.
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 Je mesure mes paroles. Le chars blindés de tous les massacres venus et à venir.
La crainte de commettre une injustice fait l'homme bon.
La proclamation, même muette, la pensée d'avoir été, d'être la victime d'une injustice, fait l'homme mauvais.
Et c'est ainsi que je chercherai d'abord la nuit et les ruines, dans les entrepôts déserts ou les sous-sols en construction, comme seul terrain propice à l'apparition de telles lueurs.
Pourtant, j'ai aussi soif de clarté, non plus la froide obscurité et d'élévation, non plus l'enfouissement sépulcral, la maison claire, la lumière apaisée, l'équilibre des formes, l'échelle et la mesure.
L'échelle et la mesure.
L'échelle et la mesure. Elle m'a laissé aux portes du désert. J'ai peut-être dit l'autre jour que c'était des latrines. Pas moyen de rester là longtemps sans bouger.
Allons.
J'y trouverai mes chiennes, mes peurs, mes tentations, mon cirque.
Je dois faire un peu d'ordre.
Quoi ? L'ordre encore ?
Je peux te dire que tu y vas pour enchanter la ménagerie entière, au son de la flûte, avant d'y perpétrer un carnage dont tu n'as pas idée. Délicieux. Atroce. Et de lire aux entrailles.
Quoi donc ?
Tu verras bien. Mais c'est encore dire. Je dois faire un peu d'ordre.
Je dois faire un peu d'ordre.
Je dois faire un peu d'ordre.
Je dois faire un peu d'ordre. Qu'est-ce que je fais ? 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 Je vais descendre dans les eaux lustrales de la folie, avec le risque couru de n'en pas revenir, pour me réordonner, pour voir.
Le feu et l'eau et leur dali. Imbécile! C'est pourtant ce que c'est que la folie. Tu as compris le chien l'autre jour, sans qu'il ait eu besoin de te déchirer. Tu l'as connu, malgré sa chaîne, grâce à sa chaîne.
La folie,
ce n'est pas autrement.
Œil.
Talon.
Fente.
Fête.
Interstice.
Fête.
Talon.
Gosse.
Poète.
Gosse.
Poète.
Poète.
Interstice.
Poète.
Gosse.
Gloussement.
Marche.
Gosse.
Fente.
Hurle.
Cloué, hurle. La peur qui rejoint dans la nuit. La peur qui rejoint dans la nuit. La peur qui rejoint dans la nuit. Au milieu mes combats, mes défenses. Avec la folie je me pense. Et c'est là mon dernier abri.
Peur qui rejoint dans la nuit. Au milieu mon combat, mes défenses.
Avec la folie je me pense. Et c'est là mon dernier abri.
La peur qui rejoint dans la nuit. La peur qui rejoint dans la nuit.
Au milieu mes combats, tes défenses.
Avec la folie je me pense. Et c'est là mon dernier abri. C'est là mon dernier abri. C'est là mon dernier abri.
dernier abri.
C'est là mon dernier abri.
La peur qui rejoint dans la nuit, au milieu de mes combats, tes défenses. Avec la folie, je me pense, et c'est là ton dernier abri.
La peur qui rejoint dans la nuit.
C'est là mon dernier abri. Et 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 c'est là mon dernier abri.
Et c'est là mon dernier abri.
De ses teintes. Des milliers de poètes l'avaient chanté, mais nul scientifique ne s'était soucié de l'expliquer. De plus, les poètes ne valaient guère mieux que les savants, parce qu'ils ne s'intéressaient guère au bleu du ciel. Ils en faisaient un gros symbole ventru, la couleur de l'infini, la couleur même de leur dieu. Au fond, il ne supportait pas que le bleu soit simplement là, sublime. Cependant, plus les siècles passaient, et la corporation des savants se confondait de moins en moins avec des prêtres. Et plus les cieux se dépeuplaient de leurs anges, plus ils perdaient leurs prodiges et leurs dieux, et plus ils s'emplissaient d'hommes dans des aéroplanes ou des nacelles. Alors on en vient à penser que le ciel paraît seulement être bleu. On comprend. On explique d'où naît l'impression de bleu du ciel. Car le soleil, lui, ignore la couleur en soi. La lumière qui les émet n'en possède pas, ou les possède toutes. Le soleil se contente de bombarder la Terre de toute sa longueur d'onde de soleil, de toutes ses forces de soleil, qui vont du pas tout à fait rouge à l'au-delà du violet. Le soleil envoie ainsi, comme en vrac, du rouge et de l'orange, du jaune, du vert et du bleu, mais surtout et avant tout du violet. Mais ces couleurs ne nous parviennent jamais. Elles se heurtent aux minuscules molécules d'air, et ce, dès qu'elles atteignent les couches supérieures de l'atmosphère. Ensuite, les molécules d'air des couches supérieures de l'atmosphère diffractent ces petites quantités de lumière. Mais elles ne le font pas de manière homogène, non. Elles diffusent mieux les petites longueurs d'onde que les grandes. Ainsi, l'air du ciel ne laisse guère passer le rouge, l'orange ou le jaune. En revanche, il diffuse bien le bleu, mais aussi et surtout le violet. Et c'est ainsi que la plupart des couleurs émises par le soleil n'atteignent jamais la rétine des hommes. Et c'est ainsi que les scientifiques démontrent que le ciel est violet.
Thank you.